Éphésiens chapitre 5. Prions. Seigneur Jésus, je te loue de tout mon cœur, de toutes mes forces, de tout ce que je suis. Seigneur, le sujet ce matin, c'est tellement important. Tellement important. Seigneur, que tu pénètres nos cœurs. Là où il y avait eu de l'amertume, des disputes, des frustrations. Seigneur, que tu commences une guérison dans nos familles, dans nos couples, dans toutes nos relations. Seigneur, nous t'aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvez-vous, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Alors, chapitre 5 au verset 22, c'est mon verset préféré de toute la Bible. c'est pas vrai, hein? Mais quand même, il est fort celui-là. J'aime pas trop les versets qui suivent, mais celui-là, il est bien. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, comme le mari est le chef de la femme, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari, soumises à leur mari en toutes choses. Alors, si Paul avait arrêté là, ça aurait été chouette, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'il continue. Au verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Vous pouvez reprendre votre place. On a des révélations de l'existence de Dieu. Avant que la Bible soit écrite, on avait la révélation dans la nature. On avait la révélation dans le cœur de l'homme. Dieu s'est révélé. Et je crois que surtout dans l'Ancien Testament, on avait cette révélation de la nature. Mais ce matin, j'étais en train de réfléchir de nouveau. Et je crois que Dieu nous a donné une autre révélation de sa personne, même à part la parole, pas à part la parole de Dieu, mais un peu dans le monde, la société aujourd'hui. Et c'est le couple chrétien est une révélation de la nature de Dieu. Et surtout une révélation de la relation qu'il y en a entre Christ et l'Église. Des fois, les gens nous reprochent parce que nous sommes un peu, selon eux, en ce qui concerne le mariage. Aujourd'hui, il faut être cool, il faut être paxé, il faut les mariages homosexuels et tout ça, selon les gens de ce monde aujourd'hui. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a une chose qui prêche cette image, Christ et l'Église, et c'est le mari qui se marie avec la femme. Ce n'est pas quand on se met en concubinage, ce n'est pas le mariage homosexuel. Ça ne montre pas la même image. Dieu nous a donné dans notre société cette image de Christ et l'Église, et c'est un homme qui est fidèle à son épouse. Amen. Un couple qui s'est engagé mutuellement de s'aimer tout le long de leur vie. Un couple qui prêche seulement par la fidélité l'un à l'autre. La relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Alors, je dois avouer que ce n'est pas facile. Mon grand-père, il m'a dit, quand je me suis marié, David, il a dit, la première année de mariage, vous l'aimez tellement que vous aimeriez la manger tellement vous l'aimez. Il a dit, après cette première année, vous allez souhaiter que vous l'aviez mangée. C'est mon grand-père qui l'a dit, pas moi. Et il était marié plus de 50 ans. Moi, j'aime bien voir les gens qui sont mariés depuis 50 ans ou plus. Je me souviens d'une fois, ma grand-mère, elle était marrante, vraiment. Et grand-père, il voulait donner l'air un peu gracieux. Alors un jour, on était là chez eux, grand-mère, grand-père. Et grand-mère m'a dit, « Ah, tu sais, David, le mariage, après 50 ans, c'est encore mieux. » Elle a dit, c'était bien au début quand on était jeunes et tout ça. Mais et elle a dit, c'est mieux maintenant après 50 ans de mariage. Et elle a dit, moi je le connais, en parlant de grand-père, tellement bien que je sais ce qu'il pense. Et grand-père dit, oh, tu sais pas ce que je pense. Et, si, je sais ce que tu penses. Et le pire, c'est presque vrai, hein, parce que je ne veux pas qu'elle soit là pendant que je suis en train de réfléchir, parce qu'elle sait ce que je pense, hein, même sans que je dise quoi que ce soit, et moi aussi, je sais ce qu'elle pense. Parce qu'on a une telle complicité après tant d'années de mariage. C'est beau. Et mes amis, c'est ça que le Seigneur veut pour nous. Aujourd'hui, le problème pour beaucoup, on s'arrête la première fois qu'il y a un petit bobo, hop, on claque la porte, on fait autre chose. Mais ce n'est pas facile le mariage. Il y a des illusions en ce qui concerne le mariage. Et il y a des réalités. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de quelques illusions et quelques réalités. On pense aujourd'hui, tout ce qu'il me faut pour être heureux, c'est un mari ou bien c'est une épouse. Si j'avais ça, ça c'est le célibataire, si j'avais ça, ou bien souvent, les gens mariés, si j'avais un autre mari, une autre épouse. J'ai lu dans le journal, là, au Brésil, il y avait un homme qui a mis une publicité sur Internet, là. Il voulait vendre sa femme pour à peu près 35 euros. Il dit qu'elle est bien. Elle est bien, cette femme, mais il avait besoin d'argent. Alors... Comme tu dis, beaucoup de jeunes filles croyaient que si j'avais un mari, ma vie sera complète. Si c'est ça la seule chose qui vous manque pour être heureuse, il y a beaucoup de femmes qui vous donneront le mari avec joie, comme cadeau, gratuit, même pas 35 euros. Ce n'est pas le mariage lui-même qui fait le bonheur. Écoute, moi, je suis béni. Je crois qu'un homme qui est marié et celui qui a trouvé une femme, il a trouvé une bonne chose. Une femme qui a trouvé un mari dans le Seigneur a trouvé une bonne chose. Je crois que pour la plupart d'entre nous, c'est la volonté de Dieu. Pour certains, Dieu les appelle au célibat, mais il le donne aussi la force de le faire. Mais vous savez, dans cette relation, c'est merveilleux. Au début, j'ai dit quelqu'un l'autre jour, je crois que quand je me suis marié, tout au début, je ne le disais pas, mais j'avais un peu l'attitude au moi-même. Ma femme, elle a vraiment de la chance d'avoir un mari comme moi. Hein? Mais après presque 36 ans de mariage, moi je dirais aujourd'hui, moi j'ai vraiment de la chance d'avoir une femme comme la mienne. Et je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle a toujours de la chance de m'avoir. Il ne faut pas dire amen. Mais je crois que moi, je suis plus chanceux, plus béni de ce côté qu'elle. Et mes amis, c'est vraiment cette idée, c'est le mariage qui va me rendre heureux. Mais ça ne marche pas. Et même de nos jours, on ne dit pas le mariage, mais c'est une relation. Vous écoutez la musique populaire, les médias populaires. Oui, vous trouvez cette relation. Vous trouvez la fille qui va vous rendre heureux, heureuse. Non. Le monsieur qui va... Non, mes amis, ça ne commence pas là. Ça ne commence pas là. Il ne faut jamais demander à une autre personne la réalité. Il ne faut jamais... demander à une autre personne de combler le vide qui est là, que seulement Dieu est capable de combler. Je crois que c'est votre philosophe français Pascal qui a dit quelque chose comme « Il y a une vie qui est là au milieu de chacun de nous et on sera toujours, toujours mécontent jusqu'à ce que cette vie soit remplie de Dieu. » plusieurs personnes. Ils cherchent dans des relations et quand ils marchent et ils voient que ça ne marche pas, ils rejettent cette relation, ils cherchent une autre. Et toute la vie, et ils sont amers, ils sont déçus parce qu'ils cherchent et ce n'est pas là. Mes amis, ça commence avec le Seigneur. On se marie, on dit, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire vraiment pour combler cette vie, pour établir cette relation? On va faire un enfant. Vous imaginez? Deux adultes qui se comportent comme des enfants, ils s'appuient sur un enfant pour être heureux. C'est un peu stupide, n'est-ce pas? Il faut que nous commençons notre relation avec le Seigneur. Pour cela, moi je dirais, il ne faut jamais qu'un chrétien, une chrétienne, se marie avec une personne qui n'est pas vraiment fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen? Il ne faut pas que nous soyons unis avec les incroyants, parce que Dieu a un plan. Et ce plan, c'est que nous prêchions cette relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Et ça ne peut pas être prêché. Ça ne peut pas être annoncé entre deux personnes quand il y en avait un qui n'est pas chrétien et l'autre qui est. Je dis, David, je suis dans un mariage où mon mari ou ma femme, et ils ne sont pas chrétiens. Alors, là où vous êtes, vous continuez dans le Seigneur, selon 1 Corinthiens chapitre 7. Si cette personne se plaise de rester avec vous, selon la parole de Dieu, vous restez avec cette personne. Je ne dis pas quitter la personne, mais je dis, si vous n'êtes pas marié, il faut que vous trouviez, ou bien il faut que vous priez, et que le Seigneur vous donne un chrétien, une chrétienne, pour le mariage. Parce que cette illusion, c'est le mariage qu'il me faut pour être heureux, heureuse. C'est faux. C'est faux. C'est Jésus qui vous voit. Et si, normalement, si vous n'êtes pas heureux en vous-même avant d'être marié, vous ne le serez pas non plus après le mariage. Wow, ça c'est fort. Mais d'abord, cherchez votre joie, votre bonheur, votre raison d'être en Jésus-Christ, votre Seigneur. Affirmez-vous dans cette relation. On a une amie qui travaille ici en France, une jeune américaine qui aime beaucoup la France. Et elle est là, travaille dans une autre église. Mais cette jeune fille, elle m'a dit une fois, vous savez, si le mariage est là ou non, c'est au Seigneur de décider. Mais elle est tellement bien dans le Seigneur et elle a tellement de confiance en elle-même qu'elle n'a pas vraiment besoin d'être mariée pour être affermie. Beaucoup de gens disent, je ne suis pas marié, alors ça veut dire que je suis peut-être moins que les autres, je ne suis pas capable. Non. Mademoiselle, ce n'est pas un mari qui vous donne de la valeur. Monsieur qui n'est pas marié, célibataire, ce n'est pas une épouse qui vous donne de la valeur. C'est Jésus-Christ, c'est qui vous êtes en vous. Et ça commence là. Et si vous vous mariez seulement pour avoir une valeur, ou bien pour que les autres pensent que ceci, ou les autres pensent que cela, non, c'est pas ça. Nous sommes mariés parce que c'est la volonté du Seigneur. Mais même si ce n'est pas la volonté du Seigneur pour notre vie, et pour tous les célibataires, oh Seigneur, que ça ne soit pas. Oh là là. Mais si nous ne sommes pas mariés, nous avons une valeur. Ce n'est pas moi qui donne valeur à mon épouse. Elle est valable en elle-même et devant le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième illusion, la perfection, le mariage parfait. Beaucoup de femmes cherchent le mari parfait. Excusez-moi, madame, j'ai une mauvaise mademoiselle, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le Seigneur, il n'y en a plus de mari parfait. Ma femme en a eu le dernier. Il rigole, Félix, il ne me croit pas. Le premier qui a rigolé, c'est elle, parce qu'elle sait que ce n'est pas vrai. Mais mes amis, on croit que le mariage, disons, ça va tout seul, et il n'y a pas de problème, et il n'y a pas, si il n'y a pas ça, le mariage n'est pas parfait. Ce n'est pas une chose parfaite. Nous devons travailler là-dessus. Oui, et dans le mariage, j'ai lu deux illustrations cette semaine qui m'ont vraiment frappé. Ce n'était pas forcément le mariage, ça parlait des relations humaines, mais ça m'a beaucoup touché. Il y a dans le mariage le besoin de passer du temps ensemble. Des fois, on est tellement pressé, surtout quand il y a des enfants, il y a du travail, il y a l'école, il y a l'église, il y a toutes choses dans notre vie. On est toujours en train de courir et des fois, nous oublions vraiment de travailler dans cette relation et sur cette relation. J'ai lu l'anecdote que M. Exley a écrit. Il a emmené sa petite fille de 3 ans faire le pêche avec lui. Alors, le papy, il s'appelait Richard. Richard, il aimait beaucoup faire le pêche. Alors, il aimait beaucoup sa petite fille qui s'appelait Alexandria, qui avait 3 ans, et il voulait vraiment l'emmener avec elle, avec lui. Alors, ils étaient là, dans le bateau, et lui, il commence de pêcher, mais elle voulait un canne à elle-même. Elle dit, non, chérie, tu peux faire le pêche avec moi. Non, s'il te plaît, papy. À moi-même. Alors, il lui a fait un petit can comme ça. Il l'a jeté dans l'eau, lui a montré comment le retirer. Et puis, il s'est retourné pour faire le sien comme ça. Et tout d'un coup, elle avait déjà retiré ça. Et il a dit, chérie, écoute, parce que ça ne va pas aller. Il voulait faire le pêche, mais la petite, elle était... Alors, il a dit, tu fais comme ça, tu le jettes, et puis tu le retires très lentement. Et puis, il s'est retourné. Là, il commençait à jeter. Et tout d'un coup, elle dit, ah, papy, c'est cassé. Alors, il se retourne et voilà le can qui est doublé presque. Il dit, oh, c'est vraiment pris sur quelque chose sous l'eau. Il a pris et c'était un poisson, un gros poisson. Hein. Alors, il avait bien, petit, bien. Alors, ensemble, ils ont fait. Et puis, le poisson est entré dans le bateau. Il avait un peu comme ça. Et elle était contente. Il voulait le remettre un peu dans l'eau. Non, papy. Mettez-le dans le bateau, là. Alors, elle était là. Elle le frottait un peu comme ça. Elle essayait de lui donner des bonbons. Et elle était vraiment, vraiment contente. Alors, le papy, il a dit que c'était splendide, super, il était content. Mais il s'est souvenu de quelque chose qui s'était passé 20 ou 30 ans avant, quand il avait emmené la maman de cette petite, sa fille, pour faire le pêche. Quand elle était petite, elle n'avait que 6 ans, à peine. Et papa, il était là, il voulait vraiment attraper beaucoup de poissons. Alors, ils sont là, papa, il fait le pêche, la petite, elle essayait de faire le pêche, mais non, elle était vraiment... Alors, il a grandi, il criait avec elle, il dit, assis-toi, bouge plus, et puis elle a fait autre chose, et à la fin, il dit, toi, tu vas rester dans la voiture jusqu'à ce que je vienne. Alors, à la fin, il avait attrapé beaucoup de poissons, mais en revenant à la maison, la petite parlait presque pas, et papa non plus, et elle voulait plus aller à la pêche beaucoup avec lui après, vous imaginez, hein? Et il a dit, ça m'a touché le cœur quand la petite fille, était comme ça. Il a dit, j'ai appris que ce n'est pas attraper les poissons, mais c'était les relations avec ma fille, avec ma petite fille. Et souvent dans la vie, mes amis, mari et femme, on est tellement pressés. Avant le mariage, madame, avant le mariage, il avait tout le temps du monde, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est Paris Saint-Germain qui est plus important que toi. Ouh là là, est-ce qu'il y a une issue de secours ici quelque part? Maintenant, c'est beaucoup de choses qui prend la première. Et madame, c'est la même chose pour vous. Oui, chérie, mais on n'a pas le temps maintenant. Ou bien je suis fatiguée. Ou bien ça. Ou bien ça. Vous savez, avant le mariage, on prenait le temps. Et je sais que ce n'est pas le même. Le style de vie a changé. Mais la même chose qui a affermi cette relation avant le mariage, c'est ce qui affirme la relation après le mariage. Et si vous ne prenez pas le temps pour faire des choses ensemble, moi je dirais au couple, il faut une activité que vous fassiez à part les enfants. Il faut faire beaucoup de choses avec les enfants, mais à part les enfants. Amen. Même si ma femme et moi, ça nous arrive de temps en temps de lire un livre ensemble. J'aime bien qu'elle me lise. Ça me fait plaisir. On fait d'autres choses. Peut-être vous aimez les promenades. C'est pas nécessaire que ça soit des grandes vacances en Chine ou quelque chose comme ça. Vous pouvez faire des choses régulièrement, chaque semaine, ensemble, pour vraiment bâtir cette relation, construire cette relation. Deuxième, dans cette illusion de perfection, deuxième chose, on n'a pas l'illusion dit, Oui, il y avait un film, et dans ce film, il y avait cette phrase. L'amour veut dire que tu n'as jamais besoin de dire « je suis désolé ». L'amour veut dire que tu n'as jamais besoin de dire « je suis désolé ». Pour lui, la personne qui a dit ça, la complicité était tellement forte que ça passait tout seul, mais ce n'est pas vrai. Mes amis, moi je dirais que dans un mariage, dans un couple, si vous voulez que cette relation soit forte, il faut souvent dire « pardonne-moi chérie ». Pardonne-moi, j'avais tort. Pardonne-moi, je parlais trop fort. Pardonne-moi, mon attitude n'était pas... Pardonne-moi, j'aurais dû faire ceci. Pardonne-moi. Parce que sinon... Mais quand on se pardonne... La deuxième illustration que j'ai lue cette semaine m'a un peu bouleversé. Et c'est encore à côté, mais je crois que les principes, c'est aussi bien pour le mariage. Ça concerne quelque chose qui s'est passé aux États-Unis il y a 10 ou 12 ans de cela. Vous qui connaissez un peu l'histoire des États-Unis, on a toujours eu, depuis la fondation de la République, un problème avec ce problème d'esclavage au départ et puis de le racisme après. Et ça faisait en sorte que l'Église se développait un peu à côté, une Église qui composait la plupart des gens qui étaient noirs, une autre qui se composait la plupart des gens qui sont blancs. Et ça continuait même... que beaucoup de choses dans la société a changé maintenant pour le bien, mais les églises, puisqu'ils avaient cette habitude, ils ont continué comme ça. Et il y avait des frères noirs, des frères blancs qui ont dit, mais c'est pas juste comme on fait, parce qu'il y a beaucoup d'arrière-plan là, on n'a jamais discuté de cela. Alors ils sont venus ensemble à Memphis, dans le Tennessee. Et il y avait des leaders des dénominations, des frères noirs, comme l'Église de Dieu en Christ, des leaders des dénominations comme la nôtre, les Assemblées de Dieu, qui sont venus ensemble et ils ont parlé, ils ont écouté le cœur l'un de l'autre. Parce que là, il y a beaucoup de malentendus, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas eu la même expérience que l'autre et on n'a pas toujours réalisé que les choses étaient comme ça. Et on passait des jours ensemble, on dit, excuse-moi, pardonne-nous. Et puis il y avait un soir, un point très très fort, où le Seigneur a donné une prophétie par un frère. Et dans cette prophétie, l'idée c'était qu'il y avait jusque maintenant des fleuves parallèles, et j'ai béni ça, mais ce n'était pas le meilleur. Mais maintenant ces fleuves, ça vient ensemble et on va vraiment voir la bénédiction de Dieu. Et tout à côté, le Seigneur a parlé à un frère, un pasteur des Assemblées de Dieu, une église comme la nôtre en Floride, là. Et il est allé, il est venu avec un bassin, avec une serviette de bain, bassin d'eau. Et il est allé sur l'estrade, là, parce que le Seigneur lui avait dit de faire ça, vers un des frères noirs, des leaders, des dirigeants d'une dénomination. Il a dit, frère, le Seigneur m'a dit qu'il fallait que je lave tes pieds. Et là, il s'est agenouillé et avec des larmes. Il commençait de confesser les péchés des frères et des sœurs blancs contre les frères et les sœurs noirs parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas toujours. Et puis, partout, il y avait une vague de pleurs qui ont envahi surtout les leaders là devant. Et puis, un leader d'une église noire très très bien connue aux États-Unis, il est venu vers le président des Assemblées de Dieu. Il dit, écoute frère, le Seigneur m'a dit qu'il faut que je lave tes pieds aussi, parce que nous aussi, on a eu des ressentiments et des choses contre les frères et les sœurs blancs là à cause du passé, et on a gardé ça, le rancune dans notre cœur. Pardonne-nous aussi, s'il vous plaît. Et mes amis, il y avait une telle réconciliation, parce que les frères et les sœurs se sont pardonnés. Puis-je dire que dans un mariage, si vous ne vous pardonnez pas, vous n'aurez pas un mariage qui vaut la peine. Ça vaut la peine, mais vous n'aurez pas un mariage. Tout comme ses frères, parce qu'il y avait des années derrière ça, qui devaient se pardonner. Mais dans le mariage, il arrive des choses, on dit des choses, et on dit des choses, et on ne se rend même pas compte. Des fois, on a une façon de dire des choses qui coupent, qui fait mal, et peut-être on ne se rend même pas compte. Et puis, ça accumule comme des gouttes qui tombent dans un étang, ça accumule, et puis des fleuves. Et puis un jour, ça casse, et on dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une petite chose, mais c'était l'accumulation des années où le mari et la femme ne se sont pas dit, chérie, pardonne-moi, j'avais tort. Puis-je dire que c'est comme ça dans l'église aussi? que souvent nous disons très vite, si quelque chose ne nous plaît pas, on dit ça à l'autre personne. Mais est-ce qu'on ne demande jamais le pardon? J'étais trop comme ça. J'étais trop impatient. Frère, j'étais critiqué. Je n'aurais pas dû le faire. J'ai dit ça, j'ai fait ça. Écoute, sans le pardon, on ne peut pas marcher ensemble. Vous m'avez entendu? Le pardon, c'est divin. Le pardon, c'est du Seigneur. On est tous différents, on vient des pays différents, les Français, mais on a des autres, comme moi par exemple, qui viennent d'autres horizons, d'autres endroits. Et on a des cultures différentes, mais on marche ensemble parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes un. Amen. Le monde ne comprend pas, le monde fait des bagarres, le monde ne peut pas marcher ensemble, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais dans l'Église, quand l'Église est remplie de l'Esprit et l'Église marche comme l'Église doit marcher, il y a du pardon. Et dans le mariage, quand le couple chrétien marche comme il doit marcher, il y a du pardon. J'ai dans le magazine Victoire, dans le numéro qui vient dans deux semaines à peu près, j'ai posé une question par dans les tasses de café. J'ai dit, vous les femmes âgées ou bien moins âgées, mais quand même, quel conseil vous donnerez-vous à une jeune femme quoi, de 25, 20 ans, une jeune femme qui venait de se marier ou qui n'est pas encore mariée. Il y avait une jeune femme qui a répondu. Elle avait à peu près 30 ans. Mais elle a dit, le conseil que je donnerais à une jeune femme récemment mariée est de ne jamais faire de canoë ou de monter une tente avec votre époux dans le premier mois du mariage. À moins que vous voulez vraiment travailler à la communication d'une manière pas plaisante. Si vous faites ces choses ensemble, un an plus tard, ça ira beaucoup mieux. Alors ça, c'est le conseil de Jennifer. Hein? Et je crois que c'est la même chose dans nos mariages. Il faut se pardonner. Troisièmement, et la dernière chose, ça va tout seul. On a de l'amour, alors on se marie, ça va aller tout seul. Oui, oui, ça va aller tout seul. Boum, 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 à droite et à gauche. C'est comme une voiture. Oui, oui, je démarre le moteur, je le mets pour qu'on marche, et puis ça va aller tout seul. N'est-ce pas? On ne sait pas où, mais ça va aller tout seul. Si vous voulez que votre mariage aille vers un but, il faut vraiment, vraiment mettre en place les choses qui fassent en sorte que ça marche, le mariage. Sinon, ça ne va pas marcher. Et qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'ici, dans notre texte, il y a vraiment des clés. Comme j'ai dit, j'aime bien cette première partie, quand il dit que la femme doit se soumettre à son mari. On aime tout ça, n'est-ce pas, les hommes? Mais est-ce que vous avez jamais remarqué, dans le Nouveau Testament, je ne crois pas qu'il ait jamais dit que la femme doit obéir à son mari. Vous êtes choqués? Lisez les textes. Éphésiens chapitre 5, Colossiens chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3. Il dit, femme, soumettez-vous à votre mari. Il a dit, enfant, obéissez à vos parents. Il dit, esclave, obéissez à vos maîtres. Mais il a dit, femme, soumettez-vous à votre mari. Pourquoi? C'est un terme militaire. Rendez-vous en ordre devant un chef militaire en grec. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, dans l'armée française, est-ce qu'il y a des simples soldats qui vaut mieux que certains généraux? Et est-ce que le fait que l'un soit caporal et l'autre soit le lieutenant, est-ce que ça veut dire que la personne de le lieutenant est mieux que la personne du caporal? Non! Il y a des caporales qui vont mieux que les colonels, n'est-ce pas? Ça n'a rien à faire avec la valeur de la personne. Ça a à faire avec le rangé là, que ça ne marche pas si tous les caporales veulent être généraux. Amen? Ça ne marche pas. Et dans le mariage, si on a trop de généraux, on va toujours se cogner contre le mur, n'est-ce pas? Mais la différence entre la femme et les enfants et les esclaves, c'est qu'elle, parce qu'elle aime bien, elle aime beaucoup le Seigneur, elle se soumet volontairement comme d'abord au Seigneur. Ça ne veut pas dire que votre mari a toujours raison, madame. Parfois, il est bête. Mais c'est vrai. Et ce n'est pas que quand ça va pas, vous lui dites, toi, je t'ai dit. Un monsieur, il a dit, vous savez, chaque fois que ma femme et moi, on a une petite dispute, c'est comme une leçon en histoire ancienne. Parce qu'elle le rappelle, tout, oh, tu sais, tu as fait, tu as dit. Non. Revenez au pardon. Amen, pardon. Mais là, la soumission, elle n'est ni enfant, ni esclave, monsieur. C'est votre épouse. Il faut la retraiter comme ça. Alors, ça sera dangereux, mes amis. Si Hitler était votre mari, peut-être que ça sera difficile. Hein? Parce que soumettez une telle personne, il va vous entraîner dans des choses qui ne sont pas bien. Et laisse-moi dire entre parenthèses, ça, c'est pas de la soumission dans les choses qui sont contre la parole de Dieu. C'est autre chose. Mais, disons, ça, c'est si vous ne pouvez pas être tout à fait d'accord, parce qu'on a mille choses dans la vie. Et un mari qui est sage, il écoute sa femme. Abraham, c'était un grand, c'était un des poids lourds de la Bible, si vous voulez. Et le Seigneur lui a dit, écoute ta femme. Et il dit ça à certains de vous, les messieurs qui sont tellement chauvins. Oh, moi, Tarzan, vous, Jane, obéissez-vous. C'est pas ça. Non. Ça n'est pas biblique. Ça n'est pas biblique. La soumission de la femme est volontaire, comme au Seigneur. Et par contre, ce qui me fâche un peu, c'est qu'il dit ça aux femmes, mais il dit trois fois plus aux hommes. Aïe, aïe, c'est pas juste, Seigneur. Mais il dit, bon, si les femmes doivent se soumettre comme l'Église soumet au Seigneur, l'homme doit aimer sa femme comme le Christ aime le Seigneur. Beaucoup d'hommes, ils prennent cette chose de soumission comme une chose égoïste et comme ça, ils font toujours ce qu'ils veulent. Vous savez, si moi j'aime ma femme, moi je ne vais jamais prendre une décision qui est pour son mal, qui va lui faire mal. Si on fait une chose qui est difficile, on le fait ensemble. Et si je prends une décision, c'est pour le bien de mes enfants, c'est pour le bien de mon épouse. Si je dois prendre une décision, si le mari, la femme, on discute, on parle, on fait, on travaille, on prie plus que toute autre chose. Et puis à la fin, si on arrive et il doit être une décision qui est prise et on n'est pas encore tombé d'accord, alors c'est le mari qui doit prendre cette décision et il assume les conséquences de sa décision aussi. Mais avant cela, messieurs, si vous êtes sages, écoutez votre femme. Écoutez ce qu'elle a à dire. Écoutez ses conseils. Parce que là, si vous l'aimez, vous allez vouloir faire ce qui est bien pour elle. La Bible dit, comme Christ travaille pour l'Église, il s'est donné pour elle. Le monsieur qui dit, oui, je suis chef de la famille, fais ça. Non, il ne se donne pas. Il prend. C'est le chef. Tu fais ça pour moi, Non, il donne, la Bible dit, comme Christ s'est donné pour l'Église, le mari, il se donne pour son épouse, il travaille pour son bien, il essaie de la faire grandir dans le Seigneur, il fait en sorte que sa vie soit moins difficile, pas plus difficile. La Bible dit qu'il nourrit et on prend soin d'elle. Cette phrase ici, ce mot en grec, c'est le mot, je crois que c'est talpo, quelque chose comme ça. Et l'image que ça donne, c'est d'adoucir par chaleur. Ça donne l'idée d'une mère oiseau qui couvre de ses ailes ses petits. Et monsieur, c'est ça que Dieu veut que vous fassiez pour votre épouse, que vous la couvrez de votre chaleur, de votre amour. Vous savez, je termine parce qu'il est tard. Mais nous, les hommes, avant le mariage, nous sommes les gens les plus romantiques du monde. Après le mariage, on a fait le cure. On n'est plus très romantique, n'est-ce pas? Mais nos femmes, elles ont besoin de ça. Moi, je suis le pire. Je ne suis pas très romantique. Mais dis pas amen, Félix. Mais c'est vrai quand même, je sais. Je ne suis pas très romantique, moi. Mais nos femmes ont besoin de sentir la chaleur de notre cœur. Pas nos paroles. On les gronde, on les critique. Ça fait mal. Ou bien, on dit, chérie, voilà, là, cette place ce soir, super. Ou bien, tes cheveux, chérie, super. Elle va chez la coiffeuse et elle sort. Et tu dis, oh là là. Non, non, tu dis pas, oh là là. Tu dis, chérie, c'est le coiffeur le plus unique que j'ai jamais vu de ma vie. Si vous voulez manger ce soir-là. Pas nos paroles nous montrent notre amour à notre épouse. Amen. Et madame, pas votre respect. Vous montrez votre amour au Seigneur et à votre mari. Parce que si vous êtes toujours en train de respecter, il dit non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. On a dit que le Seigneur, il a créé Adam avant de créer Ève parce qu'il ne voulait pas des suggestions de comment faire. Mais, non, non. Mais ma femme dit, il a créé Ève parce qu'il a regardé Adam et il dit, bon, moi je peux faire mieux que ça. Alors il a créé la femme après. Alors c'est pas. Mais ce que je veux dire, aimons-nous les uns les autres. On va avoir un moment de prière de Dieu, mais lèvons-nous tous ensemble, s'il vous plaît. Juste avant qu'on appelle les gens ici au devant pour la prière, j'aimerais bien qu'on prie. Messieurs, madame, mari, femme, si vous êtes dans la réunion aujourd'hui, si votre épouse est là, monsieur, j'aimerais bien que vous preniez sa main maintenant, ok? Si vos enfants sont ici aussi, que vous mettez vos enfants avec vous, j'aimerais bien maintenant que monsieur et madame, vous priez l'un pour l'autre. Et si vos enfants sont là, que vous priez. Prenez la main de votre épouse maintenant. Est-ce que vous pouvez le faire? Si les enfants sont là, peut-être les deux mains libres, vous mettez sur vos enfants aussi. On va le faire maintenant. Seigneur Jésus, nous voulons prêcher Jésus plus que toute autre chose de ce monde. Nous annonçons la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Seigneur, elle est précieuse. Oh, nous l'aimons de tout notre cœur. Mais Seigneur, nous savons que nous prêchons aussi par notre couple parce que c'est une image de Christ et l'Église. Et ce matin, nous voulons bien prêcher. Nous voulons que nos enfants voient Christ dans la relation maman et papa. Nous voulons que Christ soit vraiment évident dans notre couple pour que nos enfants le voient et ils viennent à toi, Seigneur. Ils sont tellement attirés vers toi. Seigneur, nous voulons que les gens autour de nous soient attirés à toi par notre couple. Seigneur, ce matin, guéris nos couples. Seigneur, pour ceux qui se disputent constamment, Seigneur, qui s'arrêtent maintenant, qui cherchent de l'aide, parce que maintenant, nous voulons annoncer Jésus dans notre couple. C'en est fini d'être comme les mariages du monde. C'en est fini d'être comme les gens de ce monde qui regardent toujours à droite et à gauche, qui courent à droite et à gauche pour chercher quelque chose qui n'est pas là. Seigneur, dans le mariage, dans le couple que tu nous as donné, Seigneur, il y a une profondeur, il y a une richesse, il y a un bonheur qu'on n'a jamais plombé. Et aujourd'hui, je prie que tu guéris nos couples, Seigneur, que tu réponds ton esprit d'une manière évidente et puissante sur nos couples, Seigneur. Guéris-nous, fortifie-nous, Seigneur. Nous voulons prêcher Jésus. Nous voulons prêcher Jésus. Là, vous êtes à la réunion ce matin et vous dites, David, tu connais pas le Seigneur Jésus-Christ. Chaque réunion, on ne veut pas louper l'occasion. Si vous êtes là et vous ne connaissez pas Jésus, personne ne regarde à droite et à gauche. Et vous dites, pasteur, j'ai besoin de connaître Jésus. J'ai besoin du pardon du péché. Je suis venu ce matin avec ça dans mon cœur. Je veux Jésus dans mon cœur. Priez pour moi. Lèvez la main tout au nom et dites, j'ai besoin de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des autres? Je veux recevoir. Amen. Amen. Je veux recevoir Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu vois ces mains et les cœurs qui ont poussé ces mains de se lever. Ils sont en train de prier maintenant. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, je sais que tu fais à cause de ce que tu as fait à la croix de Calvaire. Tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité le troisième jour. Et tu vis et tu écoutes ma prière. Tu as dit, Seigneur, si un homme, une femme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouvel. Seigneur, viens maintenant. Viens. Viens. Sauve, Seigneur, ceux qui lèvent le cœur vers toi. Ceux qui répondre en foi. Si ce matin, vraiment, vous voulez faire une rencontre avec Jésus-Christ, votre Seigneur, approchez-vous ici au devant. Et vous autres qui ont besoin de la prière, vous êtes malades ou vous passez un moment très, très difficile de votre vie et vous voulez de tout votre cœur que le Seigneur agisse pour vous. Vous êtes chrétien. Vous voulez venir avec les autres qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et vous dites, prions pour nous. On va prier, on va vous imposer les mains. Les pasteurs, les responsables de l'église vont prier pour vous. Mais maintenant, si vous êtes dans le besoin, ou bien vous voulez faire une rencontre avec le Seigneur, quittez votre place, venez ici au devant et on va prier pour vous. Alléluia. Alléluia, Jésus, Seigneur. Pasteur Jean-François, les diacres qui sont dans la réunion ici, c'est pas qui, René, Michelin, les autres. Venez prier pour ceux qui sont dans le besoin ce matin, s'il vous plaît. Les diacres, s'il vous plaît.
enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.